RFI 23h à Paris, une heure de moins en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour une demi-heure d'actualité française.
Charlotte de Rouen.
À Marseille, Gérald Darmanin promet de lutter contre le narcotrafic. Le ministre de la Justice, ancien ministre de l'Intérieur, évoque plus de moyens pour s'attaquer à ceux qui restent à la tête de ces trafics alors qu'ils sont emprisonnés. Ce vendredi, c'est jour de rentrée pour le nouveau gouvernement français avec un premier conseil des ministres, un rendez-vous au cours duquel devrait être présenté le projet de loi d'urgence pour Mayotte. Mais ces annonces seront finalement décalées d'une semaine. À Mayotte, les habitants ont besoin de tout et la reconstruction s'annonce difficile tant le paysage est dévasté, accidenté. Les autorités évoquent l'envoi de préfabriqués sur l'archipel, une mauvaise idée selon un architecte qui y travaille, vous l'entendrez. Et puis plonger dans l'univers de Paris dans les années 1900 au Festival du Merveilleux, un voyage dans le temps placé sous le signe de spectacles de magie et de performances acrobatiques proposés au pavillon de Bercy.
RFI.
À Marseille, Gérald Darmanin veut s'en prendre aux narcotrafiquants. L'actuel ministre de la Justice était en visite dans la cité phocéenne ce jeudi après un passage au palais de justice. Il était dans les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse puis à la prison des Baumettes. Léopold de Picot, le garde des Sceaux, a martelé vouloir être ferme contre les trafiquants de drogue.
Oui, déjà, Gérald Darmanin a évoqué la corruption de certains agents de l'État, comme ces gardiens de prison dont les familles sont menacées, obligées de faire passer des téléphones, des messages en cellule.
Et nous allons alourdir, en tout cas c'est ce que je souhaite, alourdir les peines contre ceux qui menacent, corrompent les agents de l'État.
Pour alléger la pression, Gérald Darmanin souhaite recruter 1600 personnels de justice de plus cette année. Il aimerait également faire appliquer les peines ordonnées.
Lorsqu'on dit que l'on condamne quelqu'un à de la prison, il faut qu'il en fasse de la prison. Et il y a trop de peines de prison qui sont prononcées, qui ne sont pas exécutées et dont jamais la personne ne va une journée en prison.
À Marseille, les règlements de comptes mortels entre narcotrafiquants ont été réduits de moitié entre 2023 et 2024. Pour accentuer cette tendance, Gérald Darmanin évoque de nouveau une forme d'isolement pour les individus les plus dangereux en prison.
Personne ne comprend, derrière son écran de télévision en lisant son journal, que ces personnes peuvent communiquer à l'extérieur. Commander des assassinats, corrompre des fonctionnaires ou pouvoir faire continuer leur point de deal.
L'an dernier, 40 000 téléphones portables ont été confisqués dans les prisons françaises. Le ministre de la Justice aimerait obtenir 500 millions d'euros supplémentaires pour installer des brouilleurs d'ondes dans les prisons. Léopold Picot, Marseille, RFI.
Et au 1er janvier, il y avait plus de 80 000 détenus dans les prisons françaises pour seulement 60 000 places environ. La politique en France, c'est aussi ce premier conseil des ministres qui doit avoir lieu demain, vendredi, deux semaines après l'annonce de l'équipe du Premier ministre François Bayrou. C'est donc jour de rentrée ce vendredi pour les ministres Victorien Villaume.
8h30, démarrage en douceur avec un petit déjeuner au ministère de l'Intérieur. 10h, le Conseil des ministres au Palais de l'Élysée. La nouvelle équipe est réunie pour la première fois au complet autour de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. Et parmi les 35 ministres, un nombre important, cette fois de profils expérimentés et connus du grand public. Les deux anciens premiers ministres, Elisabeth Borne et Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On peut citer également François Rebsamen, Rachida Dati, Bruno Retailleau ou encore Sébastien Lecornu. Alors le temps fort devait être la présentation du projet de loi d'urgence pour Mayotte, mais ce projet sera finalement présenté la semaine prochaine afin d'avoir, nous dit-on, plus de temps de concertation avec les élus locaux. À 11 jours du discours de politique générale de François Bayrou, ce premier conseil des ministres doit en tout cas permettre de coordonner l'action d'un gouvernement qui, François Bayrou en est persuadé, ne sera pas censuré.
Et de son côté, la chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, annonce se rendre à Mayotte de dimanche à mardi, trois semaines après le passage du cyclone Chido. Dans une vidéo, la chef de file de l'extrême droite dit que son parti va tout faire pour accélérer l'envoi d'aide dont la population a besoin dans l'archipel. L'un des grands défis qui se pose est celui de la reconstruction, déblayer, empêcher la reconstruction des bidonvilles et si possible envoyer des habitations préfabriquées sur l'île. C'est en tout cas l'épice évoquée par le gouvernement, mais pour Cyril Hanap, ce n'est pas une bonne idée. Il est architecte, ingénieur et associé d'une agence d'architecture à Mayotte qui œuvre notamment dans les bidonvilles. Écoutez.
Il y a déjà eu des expériences en préfabriqué. Elles ont toutes explosé. Elles n'ont pas résisté au cyclone. Par ailleurs, elles ont besoin d'infrastructures pour être posées, c'est-à-dire qu'il faut recréer des dalles en béton, etc. Et Mayotte, c'est une île extrêmement pentue. Il y a très très peu d'espace disponible. Donc les préfabriqués, c'est pas une solution parce que déjà on ne sait même pas où les poser. Quelque part, le problème des préfabriqués, c'est que au final, ils sont au même prix que les logements construits sur place. Je parle de logements dignes aux normes, etc. Et ils font pas du tout participer les gens sur place et l'économie locale. De plus, on peut pas du tout les adapter. Ils sont pas du tout adaptés au climat. Il fait extrêmement chaud en été, donc on doit nécessairement mettre une climatisation sur ces appareils. Et on peut pas du tout les modifier, les adapter, les faire évoluer avec le mode de vie des habitants. Donc c'est même pas une solution d'ailleurs, c'est une non-solution, parce qu'encore une fois, au final, on ne fait que produire des déchets avec ce genre d'objet.
Des propos recueillis par Lou et Cal. Retour dans l'Hexagone à présent, les salariés de la fonderie de Bretagne sont mobilisés pour éviter la fermeture de leur usine. Environ 300 emplois pourraient disparaître. Plusieurs responsables syndicaux ainsi que des députés ont adressé une lettre au président Emmanuel Macron pour qu'il puisse intervenir auprès de Renault et pousser le groupe automobile à s'engager à maintenir ses commandes jusqu'en 2028. Les précisions d'Anne Verdaguer.
Dans cette lettre signée notamment par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, Renault est accusé d'avoir fait capoter le projet de reprise de cette fonderie qui était en pourparlers avec le fonds allemand Private Assets, candidat à sa reprise. La fonderie de Bretagne, qui est une ancienne filiale de Renault, avait été vendue en 2022 à un autre fonds d'investissement allemand. Au terme déjà d'une longue lutte sociale, de nouvelles négociations avaient été entamées en juillet dernier car l'usine est en grave déficit. Après plusieurs mois de discussions et à la surprise générale, le constructeur automobile qui représentait 95% du chiffre d'affaires de l'usine a remis en question ses volumes d'achat sur les trois prochaines années. Les responsables syndicaux et les élus signataires appellent donc le président de la République à faire pression sur Renault pour que le constructeur s'engage à maintenir des commandes jusqu'en 2028, l'accusant de vouloir délocaliser sa production alors que le groupe a touché 298 millions d'euros d'aide publique en 2023 et a bénéficié d'un prêt garanti par l'État de 4 milliards d'euros pendant le Covid.
Anne Verdaguer du service économie de RFI. La France a battu son record d'exportation d'électricité en 2024 avec 89 TWh exportés vers les pays européens voisins, en majorité vers l'Allemagne et le Royaume-Uni. Un succès dû en partie à une électricité parmi les moins chères du continent européen, notamment grâce au parc nucléaire français.
24 heures en France.
Et parmi les changements qu'apporte la nouvelle année en France, les voitures considérées comme faisant partie des plus polluantes ne peuvent plus circuler librement depuis hier dans le Grand Paris, à Lyon, Grenoble, Montpellier ou encore Strasbourg. L'interdiction concerne les véhicules dotés d'une vignette critère 3, ce qui concerne les voitures diesel immatriculées avant 2011 et les essences immatriculées avant 2006. Alors des dérogations existent pour certains professionnels, les soignants, travailleurs de nuit ou encore certains commerçants, mais Tony Renucci est le président de l'association Respire qui veille à améliorer la qualité de l'air. Il déplore que cette nouvelle mesure soit difficilement applicable.
Ce qui rend l'application difficile, c'est l'absence de contrôle. On sait que la vidéo-verbalisation ne sera pas déployée avant 2026. C'est sûr que les gens n'appliqueront pas la mesure. Après, j'entends aussi le fait que ça peut être difficile à appliquer, notamment socialement, et c'est pour ça que je pense que ça aurait été intéressant d'envisager une révision des vignettes critères en intégrant le poids des véhicules. Plus le véhicule est lourd, plus il consomme, plus il émet aussi de CO2. Ça aurait peut-être permis de lâcher un peu plus de lest envers des ménages qui sont plus précaires, qui ont notamment des critères 3, qui parfois peuvent être plus légers, donc qui auraient pu avoir un peu plus de temps de circulation, et surtout de mettre un coup d'arrêt à cette tendance qu'ont aussi les constructeurs de sortir des véhicules de plus en plus lourds, comme les SUV, qui, c'est vrai, aujourd'hui, arrive même à être critère 1, alors qu'il pose aussi d'autres problèmes de nuisance et de pollution.
Tony Renucci, joint par Marie Leveugle. En voile, le duel se poursuit en tête du Vendée Globe entre Charlie Dalin et Johan Richaume. Les deux marins sont au large des côtes brésiliennes. Ils espèrent bénéficier des alizés pour accélérer vers l'équateur. C'est un voyage dans le temps que propose le Festival du Merveilleux au pavillon Bercy, un mélange de fêtes foraines des siècles passés avec des jeux d'adresse, des carousels et autres attractions. Toutes les facettes du monde forain sont représentées. Reportage de Constantin Jalot.
Une fête foraine des années 80, 1880. Dans le quartier de Bercy, à Paris, les manèges d'époque, vieux chevaux patinés et jeux d'arcade en bois reprennent vie dans le Festival du Merveilleux. Créé par Jean-Paul Favant il y a 14 ans, il accueille près de 3000 personnes chaque jour autour de 12 spectacles.
On a vu le spectacle d'hypnose, on a vu le ventriloque. T'as bien aimé ?
Louise est venue avec ses 4 fils, dont Achille, 5 ans.
Le manège, pour le coup, ils aiment bien. Tout ce qui est course de garçon de café, il est arrivé deuxième. Donc, et puis ils aiment bien les décors, les petits jeux de palais, les jeux de bois. Enfin, pour le coup, ils sont émerveillés.
Des attractions variées qui plaisent toujours autant. Comme l'explique Jean-Paul Favant, il est essentiel que le public joue avec ses objets de collection pour faire vivre la culture foraine.
Mes objets sont des objets qui parlent. Quand je les mets en place, je fais en sorte qu'ils soient disposés de manière à pouvoir converser avec votre tête. Donc, pour moi, les objets sont des acteurs. Le public est un acteur et tout le monde joue ensemble, dans la liberté.
Sa fille Clémentine a repris la main il y a 5 ans à la direction du festival. Elle est déterminée à faire perdurer cet héritage forain.
Mufasa, le roi lion, règne toujours sur le box-office français en cette période de vacances scolaires. Le film d'animation des studios Disney a déjà franchi le cap des 2,5 millions d'entrées, suivi par Sonic 3, le film, et Vaiana 2. RFI, 23h11 à Paris.
24h en France. Charlotte de Rouen.
C'est une aventure théâtrale qui a commencé il y a 10 ans dans la prison d'Arles. Joël Pommerat, metteur en scène, rencontre Jean Ruimi, prisonnier, passionné de théâtre. Alors ils décident ensemble d'adapter Marius de Marcel Pagnol avec d'autres prisonniers. Aujourd'hui, toute la troupe est libre et en tournée pendant un an. Muriel Mahalouf a pu rencontrer Jean Ruimi.
Bonjour Jean Ruimi.
Bonjour.
Vous jouez le rôle de César dans l'adaptation de Marius, de Marcel Pagnol, mise en scène par Joël Pommerat. Alors, c'est une aventure qui a commencé en prison. Marius, qui rêve de large, qui rêve de liberté. J'imagine que c'est un thème qui vous a parlé dès le départ.
Vous savez, la pièce, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Marius, il est enfermé dans cette boulangerie, en lui-même, avec Fanny, avec son père. Il voudrait partir, mais il aime Fanny, il aime son père, il ne veut pas les laisser, alors il ne sait pas comment faire. Mais c'est plus fort que lui. La liberté, elle est là. Et justement, c'est pour ça que cette pièce, elle est forte par rapport à nous, parce qu'il y a la liberté dedans. On était enfermés. Vous voyez, et quand on a joué, ben, nous, on se voyait libres.
Et qu'est-ce que le théâtre en prison vous a apporté ?
Ben, la liberté, tout simplement, la liberté de jouer. Parce que vous savez, en centrale, la plupart des centrales, et encore plus Arles, on appelle ça un mouroir. Parce qu'un jour, c'est 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est toujours pareil. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas beaucoup d'activité. Dans les maisons d'arrêt, ça bouge, parce qu'il y en a qui rentrent, qui sortent. Arles, non, vous rentrez, et la plupart, c'est des grosses peines. Il reste, et ça fait qu'il n'y a rien qui bouge, rien. Voilà, c'est, quand il y en a un qui vient, c'est tous les 4-5 ans qu'il arrive, on parle un peu avec lui, mais voilà. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé là-bas, je voulais faire quelque chose, une activité, parce que je me disais, c'est un mouroir, on ne va pas mourir là-dedans, on ne va pas se laisser aller. Et je voulais créer ça, voilà.
Alors, c'est une adaptation où il y a beaucoup d'humour. C'est une chose que vous avez voulu dès le départ.
Déjà, Pagnol, il y a de l'humour. Il y a de la tristesse, il y a de la colère, mais il y a de l'humour. Et nous, on a justement, avec Joël, on ne voulait pas refaire exactement comme Pagnol et Rému. Parce que, bon, pour moi, déjà, c'est, et pour Joël aussi, on sait que c'est des maîtres. Ça fait que du coup, on a dit, bon, on l'a fait, mais à condition qu'on revisite tout.
Il y a une phrase qui résonne aussi, c'est quand Marius dit que quelque part, il se meurt dans cette boulangerie. Il est en train de mourir, là.
Ben, vous savez, c'est les paroles qu'on entend dans les prisons. Je meurs, le mouroir. Le mouroir, c'est quoi ? C'est mourir en prison. C'est pour ça que je voulais faire cette pièce avec Joël, et Joël aussi. Parce qu'il y avait cette liberté qui nous donnait envie de voir plus loin, quoi.
Et cette aventure, elle continue en dehors de la prison, vous en êtes sorti. Le théâtre, j'imagine que ça vous aide maintenant que vous êtes dehors aussi.
Ça m'aide parce que je travaille. Mais bon, le théâtre, la seule chose que je trouve au théâtre et que je trouve que c'est super, c'est que le théâtre vous mène à réfléchir, vous remet en question. Et ça, c'est important. D'ailleurs, je fais un atelier sur Marseille. Bon, là, en ce moment, je ne peux pas parce que je fais ma tournée, mais sinon, en plein atelier, avec des jeunes détenus qui sortent ou qui sont en permission ou qui ont le bracelet. Et on leur fait justement du théâtre. On leur fait des impros et tout. Et je leur dis à chaque fois, le théâtre, il vous remet en question. Voilà, remettez-vous en question. Le théâtre, il nous donne vraiment une force inouïe pour avancer, pour tout. Voilà.
Merci beaucoup.
Oui, merci à vous.
Jean Rumi avec Muriel Mahalouf du service culture de RFI. Dernier épisode à présent de notre série sur les moments qui ont marqué l'actualité française en 2024 et retour ce soir sur le verdict d'un procès historique, celui des viols dits de Mazan. Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué, violé et fait violer sa femme Gisèle par plus d'une cinquantaine d'hommes qu'il recrutait sur Internet, a été condamné en décembre à 20 ans de prison. Les 50 autres accusés écopent de peine allant de 3 à 15 ans de prison. Ce procès fera date en France. Mais aussi à l'international, car Gisèle Pellicot a refusé le huis clos et a souhaité, dès le départ, que les débats soient publics. Retour au tribunal d'Avignon, nous sommes le 19 décembre, quelques minutes après l'énoncé du verdict, Baptiste Coulon.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision.
On a crié merci Gisèle avec toute notre âme et on lui dit merci mais mille fois quoi.
Ovationnée et remerciée à sa sortie du tribunal, Gisèle Pellicot se fraye un chemin entre les caméras et les micros. Le verdict a beau ne pas satisfaire les militantes féministes qui l'acclament, toutes reconnaissent une avancée majeure permise grâce à la levée du huis clos, le choix de Gisèle Pellicot.
Des femmes qui accusent de viol des agresseurs témoignent à visage découvert. Ça, c'est un grand pas en avant. Parce que jusque-là, c'était parole contre parole. Mais là, on a vu des actes, on a vu des agressions, on a vu ce que c'était qu'un viol, ce que certaines femmes subissaient.
Un début de prise de conscience qui doit bénéficier aux victimes de violences sexuelles pour Juliette, et c'est à la justice de prendre sa part.
Comment on accueille des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, comment on peut les protéger, comment on peut faire en sorte que le tribunal ce soit pas une double peine et que ce soit hyper traumatisant, et voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Mais au-delà de la justice, c'est à la société dans son ensemble d'évoluer, considère Léa. Elle aimerait se dire que le procès des viols de Mazan va créer un avant et un après, mais elle n'en est pas sûre et s'interroge.
Qu'est-ce qui va être fait derrière? Comment on va réussir à changer de façon systémique ce qui se passe? Comment on va réussir à mettre en place des mécanismes qui vont permettre aux jeunes de comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça?
Juliette apporte un début de réponse.
Il faut repenser la façon dont on éduque les garçons, il faut repenser la question du consentement, comment on traite dès l'enfance de la sexualité à l'école.
Il y a d'un côté les attentes sociales, juridiques, nombreuses après ce procès. De l'autre, les acquis qu'il faut à tout prix préserver pour Juliette.
J'espère qu'on va retenir la sororité. J'espère qu'on va retenir que les femmes, elles sont là, elles sont présentes, elles sont en colère. J'espère qu'on va retenir le courage de Gisèle. Mais le courage de Gisèle, c'est aussi le courage de toutes les femmes, même celles qui ne le font pas.
Pour maintenir cet espoir, il faut poursuivre le combat porté par Gisèle Pellicot, conclut Muriel.
Elle a dit non et elle a refusé effectivement que ce procès se passe huis clos. Et donc je pense que quand même ça a ouvert une brèche. Et nous, quelque part, ça nous a aussi conforté dans l'idée qu'il fallait continuer nos luttes. Et qu'en tout cas, ensemble, on va y arriver.
1, 2, 3. Le bon nous fasse enrage et brise en toutes ses cages. Debout, 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 debout.
Ces militantes féministes, soutien de Gisèle Pellicot tous les jours devant la cour d'assises d'Avignon.
Le journal des Outre-mer.
Avec nos confrères de la Première, en Martinique, la baisse des prix promise il y a 3 mois sera-t-elle au rendez-vous en 2025? Bonsoir, Benoît Ferrand.
Bonsoir. Le protocole de lutte contre la vie chère, protocole refusé par le RPRAC, mais signé l'an dernier par l'État, les collectivités locales et la grande distribution, est en tout cas et en principe applicable depuis ce mercredi 1er janvier en Martinique. Reportage Denis Adnelouvet.
Le groupe Caraïbes Presse a mis le pied à l'étrier en attendant l'engagement concret de l'État dans le processus de baisse de prix. Cette enseigne a commencé avec quelques 500 produits, soit 10% de ses références. Stefano Bisogno, directeur commercial des enseignes Caraïbes Price pour le groupe Créo.
Aujourd'hui, sur les protocoles signés, on devrait être en moyenne à 20% de différentiel sur le prix de base. N'ayant toujours pas eu la mise en application du gouvernement, l'entreprise a décidé de faire un premier pas et de démarrer en tout cas une baisse de prix. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes en réduction tarifaire en moyenne à 8%.
Dans les faits, on enregistre des baisses qui oscillent entre 3 euros et 10 centimes d'euros sur les prix qui étaient affichés jusqu'en fin d'année. Mais y a-t-il eu une flambée des prix depuis la signature de protocole à la mi-octobre? Autrement dit, y a-t-il réellement une baisse?
Nous n'avons pas augmenté nos tarifs depuis cette décision de signature de cette convention parce que ce n'est pas notre politique. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche d'accompagner en tout cas toutes les prises de décision qui seront prises. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir le meilleur tarif pour nos concitoyens en Martinique.
Concrètement, les clients découvrent sur certains produits des étiquettes jaunes affichant le nouveau prix, avec à côté, en blanc, l'ancien tarif.
En Nouvelle-Calédonie, 4 listes ont été déposées mercredi en vue de la désignation du prochain gouvernement local. À ce stade, il semble probable qu'à l'indépendantiste Louis Mapou succède un loyaliste à la tête de l'exécutif calédonien, Alix Madec.
Selon nos informations, la liste commune entre Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien va proposer 2 représentants pour 2 sièges, Philippe Dunoyer et Pételo Sao. Autre liste commune, c'est celle du groupe Rassemblement au Congrès et l'intergroupe Les Loyalistes avec 4 sièges et 4 candidats, Alcide Ponga, Isabelle Champmoreau, Christopher Gigès et Thierry Santa. Les membres de cette liste commune vont présenter Alcide Ponga à la présidence du gouvernement. Du côté des indépendantistes, les groupes se présentent séparément à l'élection. La liste de l'UC-FLNKS et nationaliste regroupe Gilbert Thuyénon, Michael Forest et Samuel Népéoun, qui sera lui candidat à la présidence. Du côté de l'UNI, Adolphe Digoué, membre de l'ancien exécutif, en charge de l'économie notamment et de l'agriculture, tire la liste, suivi de Claude Gambet. Il était le directeur de cabinet du président du 17e gouvernement, Louis Mapou. Notez qu'au vu du nombre de sièges, la bascule se ferait en faveur des non-indépendantistes avec 6 sièges contre 5 pour les indépendantistes sur 11 sièges au total. Les élus se retrouveront mardi prochain au Congrès pour élire ce 18e gouvernement.
L'année qui s'ouvre devrait, si tout va bien, marquer l'aboutissement de plusieurs grands projets en Guyane. Cela dit, tous les dossiers en cours, et ils sont nombreux, n'avanceront sans doute pas au même rythme. Laurent Marot.
Santé. 2025 verra la mise en place du CHU, le centre hospitalier universitaire, avec les hôpitaux de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Selon l'ARS, le transfert des dossiers des patients a commencé vers le GCS, le groupement de coopération sanitaire qui fédère les 3 pôles. Police Justice. À Cayenne, le nouvel hôtel de police devrait enfin être livré et le chantier de la cité judiciaire doit débuter au 3e trimestre. À Saint-Laurent-du-Maroni, coup d'envoi attendu de la construction d'un tribunal et d'une prison. Éducation. Livraison prévue à la rentrée 2025 du lycée de Maripasoula, du lycée 4 à Saint-Laurent et du collège de l'écoquartier à Rémire-Montjoly. Reste de gros points d'interrogation. Le projet de la piste Apatou-Papaïchton a été présenté le mois dernier par le préfet aux élus, mais il faudra s'entendre sur le financement. Le chantier du pont du Larivaud est presque à l'arrêt suite à des problèmes techniques. La relance du projet est attendue. Enfin, quel sort en 2025 pour l'évolution statutaire? Projet gelé par l'instabilité politique à Paris. Élus et sociétés civiles doivent se réunir ce mois-ci en commission spéciale pour se préparer à rencontrer le nouveau gouvernement.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand et bonne soirée à vous également.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Et on s'intéresse à présent au voyage. Quelles sont les différentes étapes d'une consultation médicale en amont d'un voyage? Le docteur Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris à Neuilly et président de la Société française de médecine des voyages, répond à Caroline Paré.
Professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris à Neuilly en région parisienne. Pourquoi une consultation médicale est-elle importante avant de voyager, notamment vers une destination tropicale?
Alors la consultation du voyage, c'est un moment important de la préparation du voyage. Elle doit se faire un peu en amont du voyage, au moins un mois. Elle va permettre d'informer sur les risques sanitaires à destination, de discuter des vaccins éventuellement pertinents à réaliser tout en vérifiant le statut vaccinal habituel. Elle va permettre de discuter de la prévention des piqûres de moustiques, notamment en Afrique subsaharienne, pour éviter au plus le paludisme et les arboviroses, dont la dengue, qui est vraiment maintenant une maladie émergente. Et va permettre également d'envisager les mesures d'hygiène générale pour éviter la diarrhée, qui est la première cause de problèmes de santé chez le voyageur. Et puis de discuter d'une trousse de pharmacie pour un voyage, notamment sur une destination comme l'Afrique.
Est-ce qu'on va dire que cette consultation, elle est encore plus indispensable pour des populations bien particulières ?
Alors bien entendu, hein, si les voyageurs sont considérés comme des personnes vulnérables, c'est-à-dire les enfants en bas âge et les personnes ayant des pathologies chroniques comme le diabète ou une immunodépression, ces personnes-là doivent absolument consulter leur médecin ou un centre spécialisé pour être au mieux conseillé, parce que ce sont les plus à risque de faire des formes sévères de maladie.
Merci professeur Rapp. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on va parler des contaminations bactériennes alimentaires, Listeria salmonelle, qui provoque gastro-entérite et fièvre typhoïde. Prévention, diagnostic et prise en charge. On se retrouve à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline Paré. RFI, 22h et 26 minutes en temps universel. C'est la fin de 24h en France. Merci à Maëlle Guyot qui m'a accompagnée ce soir à la réalisation. Dominique Bayard à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Mais d'abord, on fait un petit tour sur la bourse à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence l'année 2025 sur une baisse de 152 points pour revenir à 42 392. L'indice du Nasdaq, lui, cède 30 points et finit à 19 281. Des dégagements frappent les énormes capitalisations que sont Apple et Tesla, par exemple, ce qui pèse bien sur la tendance. Tesla accuse une chute de quelque 6%, le prétexte à ses prises de bénéfices, la confirmation d'un recul du nombre de véhicules livrés par le constructeur automobile en 2024. On n'avait pas vu de recul dans les ventes annuelles de Tesla depuis 12 ans. Pour autant, Tesla reste toujours numéro un du secteur et un des rares constructeurs à dégager des profits sur l'activité des véhicules électriques. Et en un an, le cours de Tesla a grimpé de quelque 52%. On note que les demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage retombent aux États-Unis au plus bas depuis 8 mois. Voilà qui cadre bien avec le scénario de solidité du marché du travail et de demandes soutenues qui incite la Réserve fédérale à faire une pause dans ses baisses de taux. Le baril de pétrole américain s'offre plus de 2% et repasse au-dessus de 73$. Le billet vert est le grand gagnant du jour face à un panier de grandes devises. Le dollar est maintenant au plus haut depuis novembre 2022. Les investisseurs jugent que la croissance américaine et les taux d'intérêt aux États-Unis seront pendant des mois supérieurs à ceux observés notamment en Europe et au Japon. L'euro plonge de près d'1% et revient à $1,0262. Aujourd'hui, le Dow Jones chute de 0,4% et le Nasdaq dérape de 0,2%.
RFI, les voix du monde.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Les forêts tropicales abritent une biodiversité exceptionnelle et elles jouent un rôle important dans la régulation du climat. Leur déforestation progresse, mais les scientifiques surveillent et certains se mobilisent pour enrayer cette destruction. Nos invités sont de ceux-là.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Tout à l'heure, à partir de 23h10 TU.
RFI. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Le grand écrivain peul Amadou Ampateba est remis à l'honneur grâce à un livre d'art où pour la première fois son long poème en prose, Kaïdara, est illustré par un peintre contemporain, Omar Ba. Kaïdara, dans toute sa splendeur, vous sera présenté par son éditrice, Joséphine Barbereau.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.